Le message d'aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai écrit. Il est destiné aux hommes, les mecs. En fait, je l'ai trouvé sur le site de Tout pour sa gloire, un article d'un Américain, La masculinité selon la Bible. Il y avait un sous-titre, Conçu pour la joie, comment l'évangile impacte les hommes et les femmes, identité et pratique, par Jonathan Parnell et Owen Strachan. Alors, qu'est-ce que la masculinité selon la Bible? Vous connaissez la radicalité de la Bible. Eh bien, la masculinité n'y échappe pas non plus. Voilà la définition de cet auteur. La masculinité est l'appropriation joyeuse de notre responsabilité sacrificielle, rien de moins. Une phrase un peu compliquée. En fait, elle est basée sur Éphésiens 5, versets 21 à 32. Un passage très souvent lu lors des mariages et qu'en général, les féministes n'apprécient pas du tout. Donc, Éphésiens 5, versets 21 à 32. Ça, c'est la traduction du semeur. « Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes, en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. » Pas pour faire plaisir à votre mari, par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête, de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais, comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. C'est là que vous voyez apparaître cette mention d'amour sacrificiel. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Là, Paul cite en fait un verset de la Genèse, chapitre 2, verset 24. Et Paul ajoute, il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Donc, je reprends le texte de cet auteur-là. La masculinité est l'appropriation joyeuse, il a rajouté joyeuse, de notre responsabilité sacrificielle, rien de moins. C'est notre réponse à l'appel de Dieu. J'espère ouvrir une fenêtre sur la masculinité en me référant à son rappel le plus naturel et le plus pratique de ma vie. Comment apprendre à mes deux jeunes fils à se comporter comme des hommes ? Pour ce faire, je vais décrire sept souhaits que j'ai pour mes garçons alors qu'ils grandissent en maturité vers l'âge adulte. Le premier. Je veux que mes garçons grandissent pour être de vrais hommes de Dieu. Premier arrivé, dernier parti, riant plus fort que tout le monde. Autour de chez moi, c'est notre façon d'exprimer l'appropriation joyeuse de la responsabilité sacrificielle. La vraie masculinité signifie être le premier dans la bataille. S'il y a un danger à affronter, l'homme véritable, le mec, ira le premier le combattre. S'il y a un fardeau à porter, l'homme le portera en premier. L'homme veillera à ce que la douleur et les difficultés retombent sur lui avant de tomber sur ceux dont il prend soin. Trop d'hommes pensent que le leadership masculin signifie exiger des choses, obtenir ce qu'ils veulent comme ils le veulent et faire le tour du quartier sur un grand cheval. Mais un leadership selon Dieu ne nous donne pas le droit d'asseoir notre autorité sur les autres. Cela signifie, comme le dit mon ami Toby, je ne sais pas qui c'est ce monsieur, Toby Sumter, que c'est notre gloire de mourir en premier. Alors que beaucoup d'entre nous ne seront jamais appelés à se battre dans une bataille physique pour protéger nos familles, nous sommes tous appelés à rechercher des opportunités pour être les premiers arrivés, les derniers partis et ceux qui rient le plus fort. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Vous avez le verset là, sous les yeux, c'est Marc 10, 45. Donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est bien sacrificiel. Par conséquent, un homme de Dieu rentre à la maison non pour être servi, mais pour servir. Après une dure journée de travail, un homme de Dieu rentre chez lui, non pas avec une liste d'exigences, mais avec l'empressement de vouloir donner. Il revient pour alléger les fardeaux de sa femme, pas pour en rajouter. Il revient pour jouer avec ses enfants et non les renvoyer dans leur chambre pendant que lui se repose sur le canapé. Je veux que mes fils aspirent à être des hommes qui donnent jusqu'à ce que ça fasse mal et sifflotent en le faisant. Je veux qu'ils se sacrifient avec un rire invincible dans leur cœur. Quant à moi, je ferai très volontiers des dépenses. Oh pardon, je me suis trompé de. Voilà. C'est 2 Corinthiens 12, verset 15. Pour moi, Paul, c'est très volontiers que je ferai des dépenses et que je me dépenserai moi-même tout entier pour vous, disait l'apôtre Paul. En 2 Corinthiens 12, verset 15. La masculinité, selon Dieu, devrait être la chose la plus heureuse que vous ayez jamais vue. Les yeux qui pétillent, un sourire éclatant, toujours riant, telles sont les qualités d'un homme qui a ses pieds sur le rocher. Alors, je me demande pourquoi il parlait de ça. Il cite en fait le psaume 46, versets 1 à 3. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Telles sont les qualités d'un homme qui a fixé ses pieds sur le rocher et ne sera pas ébranlé lorsque la terre sera bouleversée et que les flots des mers écumeront. Deuxième point. Je veux que mes fils embrassent leur vocation de protecteur des faibles. L'une des principales responsabilités en tant que père envers mes fils est de les préparer à la guerre. Chez nous, jouer avec des épées est une leçon de vie pratique. Lorsque nous revêtons nos armures en plastique et prenons nos épées en mousse, nous nous préparons à de vrais sacrifices. Je veux qu'ils voient que le principal fardeau de défendre leur incombe. Qu'il s'agisse de la maison, de la famille, de l'église ou du pays. Le monde est rempli de jardins, et comme le dit un pasteur, les jardins attirent toujours des serpents. Par conséquent, ma prière est qu'ils mettent leur armure, gardent leurs épées aiguisées et assurent leur rôle d'homme. De plus, une partie de leur apprentissage consiste à savoir tomber et se relever. Je veux que mes garçons tombent, Je veux qu'ils aient les genoux écorchés, la tête pleine de bosses et les bras meurtris. Je veux qu'ils ressentent la douleur, à petite dose, pour qu'ils apprennent à en rire. Je leur demande, « Que faisons-nous lorsque nous tombons ?»« On rit et on continue à jouer, » me répondent-ils. Là, j'ai mis quelques versets. Proverbe 24, verset 16. « Même si le juste tombe sept fois, il se relèvera. » Romains 14, verset 4. « Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître, mais il tiendra bon, car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. » La masculinité consiste à prendre la responsabilité de la sécurité physique, émotionnelle et spirituelle des personnes dont nous avons la charge. Je relis cette phrase parce qu'elle est vraiment très importante. La masculinité consiste à prendre la responsabilité de la sécurité physique, émotionnelle et spirituelle des personnes dont nous avons la charge. Pour moi, cela signifie entre autres de verrouiller les portes la nuit, de faire des câlins et des baisers comme si mon affection paternelle était de la neige dans un hiver du Minnesota. Alors le Minnesota, c'est un État qui est tout au nord des États-Unis. Il neige, je crois, la moitié de l'année. Et donc c'est pour ça qu'il parle de cette neige qui tombe si souvent au Minnesota. Et de prier pour que de puissants anges avec des épées enflammées gardent les chambres pendant que nous dormons. Cela signifie identifier les menaces et les ennemis de toute nature et prendre des mesures pour protéger et garder ceux qui me sont confiés. Plus important encore, cela signifie tuer le dragon qui se cache dans mon propre cœur. La plus grande menace pour mes proches est mon propre péché et ma rébellion. Par conséquent, protéger les autres exige de moi de poursuivre la sainteté résolument et joyeusement. Troisième point. Je veux que mes fils se soumettent à l'autorité légitime avec joie. La condition préalable pour être en position d'autorité est de reconnaître qu'on est toujours sous autorité. Beaucoup d'hommes pensent que le leadership consiste à être le patron, alors qu'en fait il s'agit d'abord et fondamentalement de reconnaître que Dieu est le patron. Éphésiens 6, verset 9, Paul s'adresse à des chrétiens de la province romaine d'Asie, où il y avait à l'époque, bien sûr, des maîtres et des esclaves. Et voici ce qu'il dit au maître. « Quant à vous, maître, vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître tout autant que le leur. » Celui des esclaves. Il dit exactement la même chose dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 1. La masculinité accueille avec joie et redevabilité l'autorité et la surveillance. Le fondement de la virilité selon Dieu est l'obéissance joyeuse à l'autorité légitime. Un homme ne peut pas s'attendre à l'obéissance des autres s'il n'est pas d'abord désireux d'être lui-même obéissant à ceux qui sont au-dessus de lui dans le Seigneur. Je veux que mes garçons grandissent avec une conscience profonde que leur père est un homme soumis à l'autorité. Je veux être un modèle pour eux d'une soumission joyeuse à Dieu, selon sa parole, aux anciens de notre Église et à mon patron au travail. Dieu les appelle à m'honorer, il appelle mes fils à m'honorer, à me respecter et à m'obéir. Par conséquent, je veux leur montrer comment. Le verso de la soumission à l'autorité légitime est la résistance à l'autorité illégitime. Une partie de l'enseignement de l'obéissance selon Dieu à mes fils consiste à les aider à saisir les différences entre l'autorité établie par Dieu et celle qui est usurpée par des hommes qui ne suivent pas Dieu. Et je veux qu'ils défient les seconds précisément parce qu'ils désirent obéir à Dieu. Cela signifie se réjouir d'exemples d'hommes comme l'apôtre Pierre. Rappelez-vous, en Actes 5, 29, Pierre et ses compagnons comparés devant le Sanhédrin, parce qu'il a continué à prêcher au nom de Jésus alors que cela avait été interdit. Et il dit au grand prêtre, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Martin Luther King citant d'ailleurs saint Augustin, a dit « Une loi injuste n'est pas du tout une loi ». Et là, un auteur qui s'appelle Jim Weiss, il a écrit une histoire de Robin des Bois, il a écrit « Si être un hors-la-loi est le dernier travail disponible pour un honnête homme en Angleterre, alors je serai un hors-la-loi ». Quatrième point. Je veux que mes fils trouvent la joie dans la pratique de la maîtrise de soi. Paul choisit la maîtrise de soi comme un des appels fondamentaux pour les jeunes hommes, en Tite 2, verset 6. Recommande aussi aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. Ça, c'est la traduction du Semeur. Je la trouve un peu faible. Le texte grec dit « exhorte les jeunes gens à être maîtres d'eux-mêmes en toutes choses », c'est-à-dire à exercer un self-control de leur vie. Il dit d'ailleurs la même chose pour les hommes âgés. « Dit aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes », hein, dans le même passage. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ce passage de Tite, il dit que c'est la grâce de Dieu qui nous y éduque, à être maîtres de nous-mêmes. Et vous savez que la maîtrise de soi est mentionnée par Paul comme faisant partie du fruit de l'esprit en Galates 5, verset 23. Donc, cette maîtrise de nous-mêmes signifie qu'elle est plus que notre simple volonté, elle est enseignée par la grâce de Dieu. L'un des objectifs fondamentaux de l'Esprit de Dieu est de me redonner le contrôle de moi, afin que je fasse des efforts sur ce que Dieu travaille. Philippiens 2, versets 12 et 13. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, c'est-à-dire la conduite morale selon Dieu, conformément à son projet plein d'amour. Il y a donc un travail de Dieu qui est nécessaire parce que nous sommes des êtres pécheurs sur une terre de péché. Mais ce travail, Dieu le fait. La Bible enseigne que la gloire des jeunes hommes est leur force. Ah. En effet, 1 Jean 2, verset 14, « Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. » Mais la force inactive est l'oisiveté et la passivité. Et donc la force doit être dirigée vers un but. D'un autre côté, une force non bridée est imprudente et dangereuse. Elle fait rapidement du mal et elle est destructrice. Une force gouvernée par la sagesse, une force guidée par l'Esprit de Dieu, une force visant le bien des autres, c'est ce que Dieu recherche. Pour mes fils, cela signifie contrôler leur colère et leur débordement. Ne pas se mettre à pleurnicher et à s'agiter quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Et apprendre quels sont le temps et le lieu pour faire les idiots, les fous et être bruyants. À mesure qu'ils grandissent, la maîtrise de soi sera nécessaire. Pour sortir du lit le matin pour aller à l'école, pour terminer ses devoirs avant d'aller jouer dehors, et pour résister à la tentation sexuelle. Dans un de ses écrits, l'écrivain Chesterton a fait remarquer que la raison pour laquelle l'ordre et la structure existent dans le monde de Dieu, c'est de faire de la place pour que les bonnes choses puissent se déchaîner. Dieu érige des murs autour de la ville afin que la vie puisse avoir lieu à l'intérieur. Dieu établit des limites pour que la joie puisse se déchaîner. Un homme de Dieu respecte et apprécie les clôtures construites par Dieu, puis monte à cru à travers la plaine délimitée, le vent fouettant ses cheveux. Bon. Cinquième point. Je veux que mes fils célèbrent les merveilles de la féminité. Trop souvent, magnifier les vertus d'un sexe entraîne le dénigrement de l'autre. Mais Dieu a conçu la masculinité et la féminité pour se compléter l'une l'autre. Les hommes et les femmes ont été faits pour danser ensemble. Et tout l'intérêt du fait que ce soit les hommes qui dirigent dans la danse est de mettre en valeur la beauté des femmes. Pas moi qui dis ça, hein. Mais bon, c'est bien. Par conséquent, il ne peut y avoir de masculinité selon Dieu là où la vertu féminine n'est pas célébrée. Les hommes de Dieu aiment la gloire des femmes, parce que la femme est la gloire de l'homme. 1 Corinthiens 11, verset 16, « La femme est la gloire de l'homme ». Cela signifie qu'en général, nous pouvons mesurer la fidélité des hommes à leur appel par l'épanouissement de leur femme. Dans une famille chrétienne, les fruits que portent la femme et les enfants sont la preuve que Dieu fait reposer sa bénédiction sur le mari. Si vous voulez voir la masculinité biblique, si vous voulez voir si la masculinité biblique est présente dans une assemblée, regardez les femmes et les enfants. Est-ce qu'ils s'épanouissent ? Font-ils l'objet d'une attention particulière ? Sont-ils sains, heureux et pleins d'espoir ? Je veux que mes fils soient impressionnés par la brillante force et la vivifiante sagesse des femmes. Je veux qu'ils entendent leur père chanter les louanges de leur mère, qu'importe la saison de la vie dans laquelle nous nous trouvons. Quand je les bénis avant de dormir, je veux qu'ils espèrent ardemment que mes prières pour eux se réalisent. Que le Seigneur penche son visage sur toi et te donne la paix, et t'accorde un jour une femme semblable à ta maman. Je veux qu'il n'y ait aucun soupçon de supériorité ou de domination masculine, mais uniquement de la reconnaissance envers Dieu pour l'énorme bénédiction que sont les femmes. Sixième point. Rassurez-vous, il accepte. Je veux que mes fils mettent à mort tout vestige de fausse masculinité. Alors, mes garçons sont nés en tant que fils d'Adam, ce qui est assez d'honneur pour faire relever la tête du mendiant le plus pauvre et assez de honte pour faire s'abaisser les épaules du plus grand empereur de la terre. Cette belle formule a été écrite par C.S. Lewis, un théologien et professeur de lettres de la faculté d'Oxford en Angleterre. Adam a été appelé à garder et à protéger le jardin, tout comme les Lévites gardaient et protégeaient le tabernacle. Mais au lieu de cela, lorsque le serpent s'approcha de sa femme avec ses paroles mensongères, Adam se tint là, passif et silencieux. Genèse 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Vous avez bien noté « et le garder ». Mais au lieu de cela, lorsque le serpent s'approcha de sa femme avec ses paroles mensongères, Adam se tint là, passif et silencieux. Genèse 3, verset 6. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Au verset 12, lorsque Dieu interroge Adam, Adam lui répond « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. » Dieu lui avait ordonné de ne pas manger de l'arbre interdit. Mais quand sa femme lui a offert du fruit interdit, il a choisi de défier son père, d'écouter la voix de sa femme et d'adorer la créature plutôt que le créateur. Ça, c'est un verset de Romains 1, 25. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. On s'attendait à ce qu'il assume la responsabilité de protéger sa femme et de pourvoir à ses besoins. Mais quand Dieu l'a appelé pour rendre compte de son péché, qu'a-t-il fait ? Il a accusé sa femme, et Dieu aussi, exigeant de fait que Dieu la mette à mort pour leur péché commun. Et oui, puisque la sanction de la faute, ça a été la mort. Passivité, idolâtrie, abus, ce sont les caractéristiques de la masculinité adamique. C'est le contraire de la bonne masculinité sacrificielle. Au lieu d'être le premier entré, dernier sorti, riant le plus fort, nous sommes le dernier entré, premier sorti, est toujours en train de nous plaindre. Je veux entraîner mes garçons à reconnaître le vieil homme qui vit dans leur cœur et leur enseigner à prendre leur croix et à le mettre à mort quotidiennement. Je ne me fais aucune illusion. La masculinité adamique ne sera jamais complètement détruite dans cette vie. Mais il peut y avoir des progrès, et nous devons commencer là où le premier Adam a échoué, en assumant notre responsabilité et en nous repentant. Voilà. Lorsque je prodigue des conseils à des hommes nouvellement mariés, je leur rappelle que dans un mariage de pécheurs, le conflit est inévitable. Certains disent que l'amour consiste à ne jamais avoir à dire que vous êtes désolé. Pour un mari qui suit Dieu, l'amour signifie que vous avez le privilège d'être le premier à dire que vous êtes désolé. Septième point, septième et dernier. Je veux que mes fils voient Jésus-Christ comme le fondement et le but de leur masculinité. Christ est le fondement de notre masculinité. Il a emmené l'humanité adamique dans la tombe avec lui et il a été ressuscité avec une nouvelle façon d'être humain et une nouvelle façon d'être un homme. Adam, bien sûr. Contrairement à Adam, alors j'ai trouvé la formule extraordinaire, Christ a tué le dragon pour obtenir la fille. Et il a tué le dragon en mourant lui-même. Quand il a vu sa fiancée marcher sur le chemin large de la voie de la destruction, qu'a-t-il fait? Il n'a accusé personne. Il a versé son sang. Il n'a pas condamné. Il est mort. Il n'a pas râlé, grommelé ni gémi. Au lieu de cela, il s'est donné tout entier pour elle, avec joie et grâce, afin de purifier et de rendre sa fiancée encore plus belle. Christ est mort pour les péchés d'Adam et de tous les fils qui suivent ses pas, afin de nous tracer un chemin vers notre Père et retrouver notre vocation royale. L'évangile de Jésus-Christ est le seul espoir pour les hommes défaillants et déchus, et c'est une espérance vivante et durable. Ma prière pour mes garçons et pour moi-même et pour les hommes qui écoutent ceci est que nous embrassions cet évangile et répondions à l'appel du Christ à être ses petits frères, le suivant dans la brèche, sacrifiant nos vies pour les autres et le faisant pour la joie qui nous précède. Première entrée, dernière sortie, riant le plus fort.